Vous écoutez On lit pour vous.
Avec le réchauffement climatique, les lieux d'accueil pour les Jeux d'hiver se raréfient. Un texte de Éric Desrosiers et Félix Deschênes, paru le 4 février 2026 dans Le Devoir. Les bouleversements climatiques viennent compliquer la vie de ceux qui veulent recevoir des Jeux olympiques d'hiver. Des flocons descendaient doucement mercredi le 4 février 2026 au matin, sur l'imposant chiffre 26 du logo des Jeux de Milan-Cortina, érigé juste à côté du Duomo, la célèbre cathédrale de dentelle de pierre de la métropole de la Lombardie. L'image était belle, mais totalement artificielle, parce que le chiffre en question se trouvait dans une immense boîte de verre où un ventilateur faisait tourner de faux flocons dans un faux décor hivernal, comme dans une boule à neige géante. En fait, il pleuvait sur la ville, comme il avait plu la veille et la semaine d'avant. Et il pourrait pleuvoir encore ces prochains jours si l'on en croit les météorologues. Un temps d'automne où la température reste au-dessus de zéro, sans pour autant être confortable. C'est normal, expliquait Paola, une éducatrice qui s'était abritée avec son groupe d'étudiants dans la magnifique galerie de verre, de fer et de pierre Vittorio Emanuele II, à deux pas. L'hiver à Milan, c'est souvent ça, de la pluie et du temps gris. Normal peut-être, mais loin de l'image qu'on se fait des Jeux olympiques d'hiver. Si en ville, toutes les compétitions, hockey, patinage de vitesse et patinage artistique, se tiendront à l'intérieur, les organisateurs ont craint un moment qu'il manque de neige sur les sites en montagne, comme cela se produit à l'occasion. De généreuses bordées sont venues les rassurer dans les deux dernières semaines, du moins pour le début des compétitions. Jeux d'hiver en péril. Par-delà les préoccupations météo ponctuelles, les inquiétudes s'intensifient relativement au salut des Jeux d'hiver sur fond de réchauffement climatique. D'ailleurs, seuls 13 des 21 sites où ont été disputés les Olympiques d'hiver depuis 1924 seraient fiables pour les accueillir à nouveau en 2050, selon une étude réalisée en 2018 par l'équipe du professeur Daniel Scott de l'Université de Waterloo. Pour déterminer si un site demeurerait viable aux horizons 2050 et 2080, les chercheurs se sont concentrés sur deux critères principaux. Son accès à une couverture neigeuse suffisante pour le début des Jeux, ainsi que l'enregistrement de températures adéquates pendant toutes les compétitions. Nous avons conçu un modèle physique qui tient compte des précipitations naturelles et de la production de neige artificielle, explique le professeur Scott en entrevue. Après, c'est bien d'avoir une couverture neigeuse, mais fera-t-il assez froid pour la maintenir? S'il est possible de remplir les deux critères au moins 90 % du temps, le site est jugé climatiquement viable. Si la probabilité se tient entre 75 % et 90 %, il est désigné comme risqué et si elle est maintenue sous les 75 %, il est considéré comme non viable. L'étude propose deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, GES, pour évaluer cette viabilité. L'option modérée suppose l'atteinte des objectifs climatiques de l'accord de Paris, notamment contenir le réchauffement de la planète à plus 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Le scénario d'émissions élevées, lui, projette une trajectoire actuelle, mais où aucune autre action de réduction d'émissions ne serait mise de l'avant. Selon Daniel Scott, nous allons probablement atteindre un scénario au milieu des deux. Le site de Cortina d'Ampezzo, où se dérouleront les épreuves de ski alpin, de curling et de glisse, skeleton, bobsleigh, luge, au cours des prochaines semaines, est jugé fiable jusqu'en 2080, peu importe les émissions. J'ai suivi les conditions météo d'un œil attentif, et ça n'allait pas du tout avant Noël dans le nord de l'Italie. Mais depuis, une vague de froid a frappé la région, ce qui a permis de très bonnes conditions pour la fabrication de neige. Maintenant, on annonce des températures nocturnes au-dessus de zéro au début des Jeux, alors on se croise les doigts pour que ça ne nuise pas à la couverture neigeuse, explique le professeur Scott, qui compte regarder assidûment les Jeux. Super frappant. Une autre qui suit les conditions de neige de près est la skieuse acrobatique québécoise Marion Thénault. Initiée à son sport à 17 ans, après avoir fait longtemps de la gymnastique, la spécialiste des sauts et médaillée de bronze du concours par équipe avec Mia Fontaine et Lewis Irving aux Jeux de Pékin dit avoir eu une révélation. Tu as beau te dire conscientisé, mais quand tu es à l'école, à la maison ou dans un gymnase, les changements climatiques peuvent rester abstraits. Mais quand ton sport t'amène en montagne, ça devient super frappant, expliquait la cherbrouquoise de 25 ans au Devoir le printemps dernier en parlant de compétitions où le seul couvert neigeux se présente sous forme de minces rubans de neige artificielle qu'on déroule seulement là où doivent passer les skieurs, quand les épreuves ne sont pas carrément annulées. Ça peut devenir angoissant même. Mais moi, ça m'a aussi donné envie d'essayer de faire quelque chose. En plus de devoir se remettre d'une terrible chute survenue en entraînement et d'assurer sa qualification pour ses deuxièmes Jeux d'hiver, ceux qui débutent cette semaine, la skieuse s'est fixée comme objectif de devenir la première athlète canadienne carboneutre, c'est-à-dire de réduire au maximum les émissions de GES liées à ses activités et de faire appel à des mesures compensatoires pour ce qui reste. Aidée de la firme d'experts WSP, elle a commencé par calculer son empreinte carbone. Elle s'est rendue compte que l'essentiel de ses GES était lié à son transport, notamment aux déplacements nécessaires à sa participation aux compétitions partout dans le monde. Pour réduire son empreinte et celle des autres athlètes de sa discipline, elle a notamment proposé à la Fédération internationale du sport de modifier son calendrier de façon à réduire les inutiles allers-retours entre les continents. Ce dont on se rend compte, explique-t-elle, c'est que de nombreux athlètes se disent empêchés par la Fédération d'agir en faveur de la planète et que la Fédération jure être prête à mieux faire si les athlètes sont d'accord. C'était, avec le réchauffement climatique, les lieux d'accueil pour les Jeux d'hiver se raréfient, un texte de Éric Desrosiers et Félix Deschênes paru le 4 février 2026 dans Le Devoir.
Le projet d'intérêt national dont personne ne parle. Un texte de Philippe Mercure, paru le 5 mars 2026 dans La Presse. Oubliez l'oléoduc vers le Pacifique, le terminal à conteneurs de contrecœur, ou le TGV entre Québec et Toronto. Parmi les projets d'intérêt national les plus importants pour le Canada, il en existe un dont personne ne parle. S'assurer que les différents ordres de gouvernement collectent et s'échangent des données de façon efficace, moderne et sécuritaire. Je sais, le sujet est tout sauf sexy. Quand j'ai vu passer le rapport sur l'interopérabilité des données du secteur public au Canada, publié par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, j'ai étouffé un bâillement et bien failli passer à autre chose. Mais une discussion avec deux des auteurs du rapport, Alain Dudoit et Tony Labillois, m'a convaincu que leur proposition est cruciale pour le pays. Miser sur des données de qualité, facilement échangeables, permettrait d'augmenter la productivité du Canada, une vieille quête qu'on poursuit sans jamais l'atteindre. D'offrir de meilleurs services aux entreprises et aux citoyens, en aidant, par exemple, à éviter des fiascos comme celui de Saak Click. De prendre de meilleures décisions dans tous les domaines où intervient le gouvernement, transport, santé, énergie, etc. De mieux tirer profit de l'intelligence artificielle. Ça commence à faire plusieurs coups d'une même pierre. Et ce n'est même pas une question d'investir beaucoup d'argent, me dit Tony Labillois, ex-directeur chez Statistique Canada, aujourd'hui consultant et membre élu de l'International Statistical Institute. Quand on parle du TGV, des investissements en défense, du troisième lien, on parle de milliards de dollars. Ici, c'est une question de volonté politique, de concertation, de collaboration entre des joueurs qui existent déjà. La prémisse est simple. Dans les sociétés d'aujourd'hui, les données sont le nerf de la guerre. La force d'entreprises comme Google, Amazon ou OpenAI, c'est la gestion de l'information, fait observer Alain Dudoit, ambassadeur du Canada à la retraite, fellow invité au Cyrano et conseiller au Global Advantage Consulting Group. Le souhait des auteurs, que le secteur public, qui représente, selon leurs chiffres, de 42 à 44 % du PIB du Canada et près de 50 % de celui du Québec, devienne lui aussi un pro de la gestion de données. Des données fiables, dit M. Labillois, indépendantes et de qualité, sont un miroir de notre société, de notre économie, de nos vies. Elles nous permettent de mieux comprendre, de mieux agir. Des données, nos gouvernements en possèdent déjà des tonnes, mais elles sont souvent éparpillées et prisonnières de systèmes qui ne se parlent pas. Les données sont encore très cloisonnées au sein de nos gouvernements, dit Alain Dudoit. Il existe des cloisons entre le gouvernement du Québec et celui du Canada ou de l'Ontario, par exemple, mais aussi à l'intérieur même des ministères. Et la duplication des systèmes entraîne des coûts et des inefficacités. Pour que les données circulent mieux, nul besoin de déployer des réseaux de fibre optique à la grandeur du pays ou de changer tous les logiciels utilisés par les gouvernements. Il s'agit essentiellement de s'entendre sur des protocoles et des façons de définir et d'échanger les informations. Dans le monde imaginé par les auteurs, qui sont loin d'être les seuls à promouvoir cette idée, la ville de Montréal pourrait échanger facilement des données avec le provincial et le fédéral sur le logement ou l'itinérance. Les entreprises se heurteraient à moins de formulaires et d'incohérences parce que les programmes, la fiscalité et les permis ne seraient plus gérés en silo. Vos données de santé seraient accessibles par un médecin de la Colombie-Britannique qui pourrait vous y soigner en connaissant l'ensemble de votre dossier si vous tombez malade en voyage là-bas. Les auteurs voient aussi leur projet d'intérêt national comme un préalable aux autres que souhaite lancer le premier ministre Mark Carney. Regardez toutes les variables qu'on doit considérer pour construire le TGV entre le Québec et l'Ontario, illustre Alain Dudoit. Il faut d'abord choisir l'itinéraire. Pour ça, il faut des données géologiques, des données sur les terrains les plus propices, sur les zonages, les expropriations. Il faut des données sur le réseau électrique, sur la démographie pour planifier l'achalandage, sur les écarts de température pour choisir la bonne technologie. Ces données sont éparpillées entre les municipalités, les ministères des deux provinces, le fédéral et diverses sociétés. Ce sont ces données qui vont permettre de prendre les bonnes décisions, de choisir le bon tracé, d'estimer correctement les coûts, de mesurer les impacts des investissements, continue l'expert. Quand on pense que M. Carney cherche à abolir les obstacles au commerce interprovincial, on peut mesurer toute l'importance d'avoir des données facilement échangeables entre les provinces. Les auteurs soulignent un autre aspect important. Si les données sont la matière première permettant aux humains de prendre de bonnes décisions, elles sont aussi le carburant qui alimente les modèles d'intelligence artificielle, de plus en plus utilisés comme d'aide à la décision. Le Canada doit bientôt présenter sa stratégie nationale d'intelligence artificielle, rappelle Alain Dudoit. Or, sans données fiables, l'intelligence artificielle, c'est du garbage in, garbage out. Ça ne vaut rien. Il insiste sur un point. Quand on parle d'interopérabilité des données, ça ne veut pas dire de centraliser. Ça ne veut pas dire d'uniformiser. Ça veut simplement dire que les données répondent aux mêmes standards. Les auteurs estiment qu'une telle standardisation aurait pu contribuer à éviter le fiasco de SAAC-CLIC. D'un point de vue technologique, l'un des problèmes de SAAC-CLIC est que la solution a essentiellement été développée en silo, observe Alain Dudoit. On aurait gagné à se demander, est-ce que des solutions analogues ont été adoptés dans d'autres États? Avoir ce pool de données interopérables aurait facilité ce genre de réflexion. Le rapport plaide également pour que les données publiques restent au Canada, plutôt que d'être stockées sur des serveurs étrangers, surtout américains. La bonne nouvelle, les auteurs ne prêchent pas dans le désert. Des sous-ministres de toutes les provinces travaillent déjà sur le dossier. Je dois dire que le Québec joue, dans cette collaboration, un rôle de leadership, souligne d'ailleurs Alain Dudoit. Mais il sent qu'il manque une étincelle politique pour faire vraiment décoller le projet. Il faut commencer en 2026 avec des pas concrets, estime-t-il. Un projet d'intérêt national qui ne coûte presque rien, qui ne braquera pas les provinces les unes contre les autres et qui a le potentiel de générer des bénéfices dans à peu près tous les secteurs de l'économie et de la société. Qui dit mieux? C'était le projet d'intérêt national dont personne ne parle. Un texte de Philippe Mercure, paru le 5 mars 2026 dans La Presse.
Les besoins en soutien aux aînés vont exploser, prévient une association. Un texte de Catherine Desautels, publié le 25 novembre 2025 dans La Presse. Les ressources actuelles ne sont pas assez nombreuses pour répondre aux besoins des aînés. D'ici 2035, 111 000 personnes âgées de plus risquent de ne pas avoir les services à domicile ou un milieu de vie adapté pour elles. L'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés, l'AQMVA, sonne l'alarme et appelle les décideurs à agir avant de frapper un mur. Il s'agit d'un net déséquilibre entre la hausse de la demande et l'offre du réseau public, dénonce l'AQMVA, qui représente 86 % de l'hébergement aux aînés au Québec, autant pour les soins à domicile, en CHSLD, en résidence privée pour aînés, les RPA, ou en ressources intermédiaires. L'Association québécoise des milieux de vie pour aînés a mandaté la firme Aviséo Conseil pour réaliser une prévision sur 10 ans de la demande des besoins en matière de soutien et d'assistance pour les aînés. Le rapport, publié mardi, dresse un portrait alarmant. Le nombre d'aînés ayant un besoin de soutien à l'autonomie passera de 289 000 en 2025 à 400 000 en 2035, soit une hausse de 38 %. Le soutien à l'autonomie comprend, par exemple, l'aide à sortir du lit, la toilette partielle ou complète, l'encadrement de la prise de médicaments, etc. Ce soutien peut s'effectuer à domicile, mais aussi dans d'autres milieux, comme les résidences. Selon les prévisions, dans 10 ans, 70 % de la demande concernera le soutien à domicile et la demande en CHSLD bondira de plus de 50 %. D'ici 2040, 40 000 nouvelles places en CHSLD seront nécessaires pour répondre aux besoins. Des régions plus touchées que d'autres. Plus de la moitié de la hausse en soutien à domicile se concentrerait en Montérégie, à Montréal, dans les Laurentides et la Capitale-Nationale. À elle seule, ces quatre régions représentent près de 50 % de la croissance totale lorsqu'on combine leur poids démographique et le vieillissement de leur population. Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, se demande quelle est la vision du gouvernement pour les prochaines années au Québec. Il met de l'avant des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Depuis 2018, 700 résidences pour personnes âgées ont fermé leurs portes, guillemets, essentiellement pour des raisons financières, selon M. Veilleux. De plus, depuis 2020, 72 % des appels d'offres en ressources intermédiaires n'ont pas trouvé preneur, citation, parce que les conditions de financement ne sont pas adéquates aux réalités du marché. On vieillit tous, mais il y a certaines régions qui vont être sous une plus grande pression que d'autres. Ellipse, en termes de CHSLD, de ressources intermédiaires et de résidences privées pour aînés, également, il faut que ça cesse de fermer. Il faut continuer de développer et maintenir les services, ça, c'est incontournable. Fin de citation, soulève M. Veilleux. Déjà, 25 000 aînés n'ont pas les soins et services dont ils ont besoin. Plus précisément, 3 500 aînés sont en attente d'une place en CHSLD et 17 800 aînés attendent un premier service en soins à domicile selon les données du tableau de bord du ministère de la Santé. À cela s'ajoutent les chiffres de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, selon lesquels 5 500 personnes sont en attente d'une place en ressources intermédiaires. Ces personnes errent dans le réseau, soit qu'elles se retrouvent hospitalisées en attendant une place en CHSLD qui ne se concrétisera peut-être jamais pour elles, soit que des proches aidants s'épuisent à s'occuper d'elles. Citation. Il y a des cas qui sont hébergés en ressources intermédiaires qui devraient normalement être localisés vers des CHSLD, mais faute de place, on les maintient en ressources intermédiaires, expose M. Veilleux. Les équipes sur place ne sont pas toujours équipées pour bien encadrer ces clientèles plus lourdes. Donc, ça met une pression sur l'équipe. Ellipse, Ça a aussi un effet sur tous les autres résidents qui cohabitent avec cette personne, parce que peut-être la personne se désorganise. Elle a de gros problèmes comportementaux, donc elle n'est plus à sa place et elle désorganise le milieu de vie. Fin de citation. Ce genre de cas embourbe aussi les services des premiers répondants qui doivent intervenir dans des milieux de soins, guillemets, alors qu'ils ne devraient pas, commente M. Veilleux. La sonnette sonne plus fort que jamais. À l'heure actuelle, seules 127 nouvelles places en maison des aînés seront disponibles dans les prochaines années, selon le tableau de bord du ministère. Une, citation, hausse marginale en comparaison à la hausse prévue des besoins, exprime l'Association québécoise des milieux de vie des aînés. Le rapport indique que les besoins et les coûts pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées quadrupleront, passant de 6,2 milliards en 2020 à 25,6 milliards en 2050. Citation, cette pression financière majeure sur l'État québécois exige une réforme urgente privilégiant les soins à domicile moins coûteux, peut-on lire dans le rapport. Citation, on vient réaffirmer un constat qu'on savait déjà. Je pense que la sonnette d'alarme pour nous, elle sonne plus fort que jamais. On est définitivement devant une crise des services de soutien et d'assistance aux aînés, avec 25 000 personnes aujourd'hui qui n'ont pas leur service. Je pense qu'on est déjà dedans. Puis la crise ne va que s'accentuer au cours des prochaines années, prévient M. Veilleux, fin de citation. Autre citation, même dans le scénario optimiste, on ne va pas être en mesure de répondre aux besoins de nos aînés. Donc, il est absolument impératif qu'on se mobilise rapidement pour travailler différemment, tout le monde ensemble, dans le but de traverser cette crise, dit-il, fin de citation. M. Veilleux demande à la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Sonia Bélanger, de s'asseoir avec l'Association québécoise des milieux de vie pour aînés pour appliquer des solutions. La couverture en santé de la presse canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La presse canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique. C'était « Les besoins en soutien aux aînés vont exploser », prévient une association. Un texte de Catherine Desautels, publié le 25 novembre 2025 dans La Presse.